Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, Canal Académie vous propose aujourd'hui un éclairage sur la finance solidaire, l'argent solidaire. Un sujet passionnant qui, en cette période troublée, c'est le moins que l'on puisse dire, sur le plan financier, en quête de reconstruction économique à l'échelle planétaire, un sujet passionnant qui trouve toute son utilité dans nos sociétés en quête de sens. Pour nous parler de finances solidaires, Canal Académie reçoit aujourd'hui François De Witte. Bonjour François De Witte.
Bonjour Virginia.
François De Witte, depuis juin 2007, vous avez pris les commandes de l'association Finansol. Les auditeurs de France Info, les lecteurs de la revue Mieux Vivre Votre Argent vous connaissent bien, François De Witte. Vous êtes depuis 35 ans un spécialiste réputé des questions financières, un grand communicant autour de ces sujets, jamais avare de conseils, d'experts et de réponses avisées. Quelle a été votre formation première, François De Witte ?
Mon père voulait que je sois ingénieur, là, donc j'ai fait les préparations de grandes écoles. Et puis bon, comme j'étais bon en maths, pas en physique ou chimie, je suis rentré à Polytechnique, donc j'ai fait une école d'ingénieur. Puis ce que je voulais vraiment faire, c'était Sciences Po, donc j'ai fait ça après, parce que j'ai toujours eu envie de faire du journalisme. J'en ai même fait quand j'étais polytechnicien.
Et alors pourquoi cette orientation vers l'économie, vers les finances ?
Parce que si vous voulez, je crois que d'abord l'économie m'intéresse et puis quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, l'expansion venait de se créer. Tout de suite, assez naturellement, je me suis dit, tiens, voilà un magazine intéressant. Jean Bossonnat est une grande personnalité. Jean-Louis Savant-Schreiber, le fondateur, était aussi une personnalité intéressante. Et c'était un magazine très ouvert, moderne, qui voulait se démarquer des puissances de l'argent, d'ailleurs, et avoir un ton, si je puis dire, libre. Ce qui n'était pas tellement le cas de la presse économique française à l'époque. Donc j'ai été très heureux, j'ai travaillé 18 ans, j'ai même été fasciné par Jean Boissonnat, j'étais un peu comme Poulidor qui courait après Anquetil. Puis je me suis aperçu à un moment donné qu'on n'était pas vraiment pareil et qu'au fond, lui il avait une vocation, j'en avais une autre et j'ai dévié et je suis parti dans la presse plutôt financière si vous voulez parce que je couvrais déjà ces sujets-là, comme vous l'avez dit, parce que j'ai fait depuis 35 ans, des sujets, disons, de business personnel, de placement, de que faire de son argent. Et je me suis occupé successivement de la vie financière, ensuite Challenge qui était plus économique, mais qui avait quand même un gros morceau, je dirais, financier et finances personnelles. Et puis je suis ensuite Mieux Vivre Votre Argent, donc j'ai fait vraiment beaucoup de presse financière depuis, les 35 ans que je suis journaliste.
L'argent, cette oui. Énergie, aucun complexe vis-à-vis de l'argent.
Alors si vous voulez ça, je crois que j'ai un avantage, c'est d'ailleurs Boissonnat qui m'avait dit ça un jour, il m'a dit, vous avez une relation à l'argent qui est beaucoup plus simple que celle de la plupart d'entre nous, lui était catholique, militant d'ailleurs, et c'est peut-être vrai, parce que si vous voulez, la culture protestante, je crois, est plus ouverte, il se trouve en plus que je suis un arrière petit-fils de Guizot, dont le gendre, qui est mon aïeul, parce que il a épousé une fille de Guizot, a rapporté dans, d'ailleurs, ça a été rapporté dans le livre qui a été écrit, la biographie de Guizot, écrit par Gabriel de Breuil, donc votre chancelier. Il a rapporté que Guizot, à une réunion électorale à Lisieux, aurait dit « Enrichissez-vous par le travail, par l'épargne et par la probité ». Et en fait, on n'a jamais retrouvé cette phrase dans l'œuvre de Guizot, sauf que ses adversaires politiques s'en sont beaucoup servis, ils l'ont tronqué et c'est devenu juste « Enrichissez-vous ». Et il est, par exemple, il a été un grand ministre de Louis-Philippe, qui n'a pas laissé un souvenir ému parce que c'était, vous savez, les bourgeois, etc. Donc la gauche les a toujours pas mal égratignés. Et Guizot était un libéral, mais il est responsable au moins de... Enfin, parmi les choses qu'il a faites, c'est lui qui a eu l'expression « l'entente cordiale », ce qui est amusant, le rapprochement des Anglais, parce qu'il était très pro-anglais. Et c'est grâce à lui que la scolarité primaire a été rendue obligatoire. On prête toujours ça à Jules Ferry qui a rendu la scolarité secondaire obligatoire. Donc Guizot a quand même fait beaucoup pour que les petits Français soient un peu mieux éduqués. Et donc j'ai cette culture de l'enrichissement, ça ne me dérange pas du tout d'être riche. En ce moment, on est un peu plus pauvre parce que la bourse n'est pas très bonne, comme vous le savez. mais à condition que cet argent travaille. Si vous voulez. L'argent, c'est un fluide. C'est pas fait pour être stocké comme du sucre. C'est fait pour justement être mis dans la salade comme de l'huile. Et donc, la relation à l'argent, souvent, est assez fausse ou en tout cas faussée par ce besoin de stockage. Et aussi, évidemment, quand on avance en âge, par un certain côté avaricieux qui a tendance à pointer le bout du nez et qu'il faut essayer, coûte que coûte, d'éviter.
L'argent doit circuler comme une
énergie. L'argent doit circuler, absolument. C'est fait pour ça. Et donc, en avoir plus, c'est très bien, à condition qu'on puisse le mettre à bon usage.
Et je relève le clin d'œil du petit descendant de Guizot que vous êtes avec le titre de votre livre.
Ah oui.
Appauvrissez-vous.
Oui, j'ai effectivement écrit un livre, Appauvrissez-vous.
Qui est paru, chez
Bourin Éditeur il y a 4 ans. Et il y a 2 ans, François Bourin m'a dit on aurait pu l'appeler Enrichissez-les. Ça aurait été plus positif, mais Appauvrissez-vous, c'était évidemment un clin d'œil à l'ancêtre. L'idée du livre étant effectivement, quand on avance en âge, il faut se dépouiller, se déposséder, je dirais, naturellement et de manière spontanée vis-à-vis notamment de ses enfants, vis-à-vis des causes que l'on veut, parce que ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière.
Une épuration, un renoncement ?
L'idée, c'est de vivre agréablement jusqu'à la fin de ses jours, mais ce qu'on sait, ce que j'ai constaté par mon métier, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans un pays comme la France, mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est plutôt des millions de gens qui ont devant eux plus d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser jusqu'à la fin de leur jour. Donc ils ont un excédent. Que faire de cet excédent ? C'est ça tout le sujet, l'idée de mon livre. Mais en tout cas, c'est effectivement... Ça correspond aussi très profondément à ma démarche et d'une certaine manière, ça me ramène aussi au solidaire, donc à la présidence de Finansol. On va y revenir, je pense.
Ce sentiment de vouloir toujours thésauriser, amasser et de stocker, comme vous le disiez, provient peut-être d'un sentiment de crainte, de peur, un sentiment de manque de confiance et de méfiance.
Il y a un manque de confiance, effectivement, un manque de confiance du système, dans le système dans lequel on est. Ce qui est, hélas, une caractéristique des Français depuis très longtemps. Il y a aussi le fait que nous sommes dans notre pays, on est très immobilier. Et l'immobilier, si vous y réfléchissez, une vieille dame de 80 ans qui erre dans 250 mètres carrés, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, c'est complètement stupide. Il y en a beaucoup trop pour elle, ça n'a aucun sens. Et moi, je plaide en faveur du statut de locataire quand on est vieux. Alors, ça paraît totalement aberrant, mais quelqu'un de plus de 75 ans, quand il loue, on ne peut pas le virer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il a la sécurité totale. Et en plus, il a libéré des capitaux qui étaient enfermés dans son appartement précédent. Et donc, il est en mesure de les faire circuler. Donc, ça correspond tout à fait, si vous voulez, à ma démarche.
Vous êtes donc actuellement responsable de l'association Finansol, avec un mandat de quelle durée, François De Witt ?
3 ans.
3 ans. Finansol est une association qui a été créée en 1995, je crois. Une association de quel type ?
C'est une petite association qui a été créée par des gens qui s'appelaient, ou qui s'appellent toujours, des financeurs solidaires. Alors, c'est quoi les financeurs solidaires ? Ce sont des petites structures de financement d'entrepreneurs solidaires ou d'entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire de gens qui créent des entreprises ou des associations d'ailleurs, dont la vocation est beaucoup plus sociale que, disons, de faire de l'argent, de faire du profit, etc. Donc c'est l'origine de Finansol, c'est un petit regroupement de gens et qui en plus avait une très jolie idée qui était de créer un monde meilleur, en fait, qui ne soit ni la société capitaliste avec ses duretés et son agressivité, ni la société communiste avec, disons, son enfermement, mais une troisième voie. Donc c'est un côté un peu, et un côté évidemment un tout petit peu utopique dans cette démarche, mais très très sympathique, parce que grâce aux finances solidaires, eh bien, on aide des entreprises qui font de l'agriculture biologique, qui font du commerce nord-sud, qui font du transport avec des véhicules électriques, etc. Ou qui font, par exemple, de la distribution de produits biologiques. Biocoop, qui est une marque qu'on voit bien dans beaucoup de villes, eh bien, c'est une entreprise solidaire à l'origine qui a été financée par ces moyens-là. Donc ça, c'est un peu le départ. Et puis ça, c'est un peu élargi, on peut en parler, à diverses activités. Et maintenant, l'association regroupe aussi bien donc, des financeurs solidaires, des entreprises qui investissent dans des micro-entreprises ou dans des associations qui sont concernées par le solidaire, que des grandes banques qui créent des livrets d'épargne solidaire, on peut en parler, ou même qui diffusent ce qu'on appelle de l'épargne salariale solidaire. Donc il y a plusieurs voies maintenant du solidaire que je serais ravi de développer si vous m'en donnez l'occasion.
Tout à fait, mais nous le ferons, si vous en êtes d'accord, François De Witt, après avoir tout de même, et je m'en excuse par avance, après vous avoir demandé une fois de plus de redire ce que vous devez chaque fois rappeler dans chacune de vos interventions lorsqu'on vous interroge sur la finance solidaire, la définition de la finance solidaire pour nous faire comprendre ce qu'est la finance solidaire. Je crois que vous aimez bien utiliser le mot de compromis.
Oui, absolument. La finance solidaire, c'est un compromis entre une recherche de rentabilité du placement que l'on fait et une recherche de sens, si on peut dire. Donc, si vous voulez, on va avoir un peu moins de rentabilité, mais peut-être un peu plus de sens. Quand je dis sens, investir dans Danone ou EDF, ça a du sens. Mais ce que j'appelle du sens, c'est faire un geste vis-à-vis d'autres, vis-à-vis d'entrepreneurs qui vont, par exemple, embaucher des handicapés, embaucher des chômeurs de longue durée, qui vont effectivement faire de l'agriculture biologique, qui vont, par exemple, parce qu'il y a des outils solidaires qui marchent comme ça, qui vont s'endetter pour acheter du matériel économiseur d'énergie. Donc, si vous voulez, c'est tout un ensemble de démarches et d'outils d'épargne qui ont la caractéristique, en contrepartie d'un peu, il y a un peu moins de rentabilité, peut-être un petit peu plus de sens. Vous voyez, c'est
voilà. Oui, on pourrait oser le tandem responsabilité fraternité.
Oui, effectivement, j'aime bien vous parler de ce mot que Ségolène Royal a remis un peu au goût du jour. Moi, c'est un mot que je trouve formidable et qui fait partie de notre trilogie démocratique laïque, si je puis dire, et qui est peu utilisé et qui me paraît effectivement tout à fait correspondre à la démarche des gens qui, disons, il y a 300 000 épargnants solidaires aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont tous convaincus qu'il y a quelque chose de fraternel dans leur démarche.
Alors, on parle d'investissement solidaire. Et on parle aussi de placement de partage. C'est un peu compliqué. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
Merci, c'est une excellente question. Vous avez tout à fait raison. Parce que déjà, comprendre comment fonctionnent les investissements solidaires, ce n'est pas évident. Mais en plus, à l'intérieur de cet univers, il y en a deux. Il y a le solidaire direct. Donc, ce que je viens de dire sur l'investissement direct dans les entreprises, au bout du bout, c'est un investissement direct dans les entreprises, disons, chez les entrepreneurs sociaux. Mais on peut aussi, effectivement, faire du partage. Alors, c'est quoi le partage ? C'est une voie qui est née aussi au même temps qu'a été créé Finansol. Eh bien, c'est par exemple, vous avez une SICAV, donc un fonds investi en actions et en obligations, dont une partie des revenus va être partagée entre celui qui souscrit et alors là, pour le coup, ce ne sont pas des entreprises solidaires, ce sont des ONG, des associations, secours catholiques, comité catholique contre la faim et pour le développement. Alors, il n'y a pas que les catholiques, bien entendu. Il y a Action contre la faim, il peut y avoir l'UNICEF, etc. Donc, un certain nombre de grandes institutions, de grandes ONG sont partiellement financées, soit par des revenus en provenance de SICAV, soit par des revenus en provenance de livrets, parce que les livrets de partage sont devenus un outil tout à fait important, dont le Crédit Coopératif, par exemple, a fait une vigoureuse promotion, puisqu'il a environ une vingtaine de causes qui sont soutenues par les différents livrets dits Agir qu'il gère. Mais le Crédit Coopératif, c'est une toute petite banque. Le réseau, par exemple, du Crédit Mutuel a décidé cette année de faire une promotion vigoureuse de ce qui s'appelle le livret d'épargne pour les autres, le LEA, qui est un livret qui est rémunéré comme un livret normal à 4%. Simplement, il y en a 2% qui sont dans votre poche et 2% qui vont justement financer des ONG diverses et variées. Et je crois que c'est une manière aussi de montrer qu'on est solidaire. Vous voyez, on peut être solidaire dans l'investissement direct dans les entreprises et on peut être solidaire en partageant les revenus de ces placements avec d'autres.
Et alors, en bout de chaîne de ces placements de partage, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires des minima sociaux peuvent créer leur entreprise, des emplois, des familles en situation précaire peuvent se loger, des projets environnementaux comme le développement, oui, vous le disiez, des filières bio voient le jour, etc. Hein,
tout alors ça, c'est moins le partage justement que le solidaire. Je vous accorde que c'est compliqué. Par exemple, si je suis salarié d'une grande entreprise, je prends une entreprise comme Carrefour. Carrefour, avec ses plusieurs centaines de milliers de salariés, ils offrent à leurs salariés, dans le cadre de leur plan d'épargne retraite, ils leur offrent de souscrire un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce fonds commun de placement d'entreprise, il fonctionne comme beaucoup de fonds communs d'entreprise, sauf qu'il y a une petite poche de 5% de l'argent qu'il gère qui est consacrée à des entreprises solidaires et qui, justement, est investie dans France Active, par exemple, qui offre des emplois à des chômeurs de longue durée, qui est investie dans la foncière Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme sont les gens qui construisent des logements pour des gens qui sont en grande difficulté, en grande précarité, ou, par exemple, qui met de l'argent dans l'ADI. Elle a dit finance du microcrédit pour les Français. Donc, ce type d'activité, quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous êtes solidaire très indirectement, mais quand même d'un certain nombre de gens qui créent des emplois, parce que tout de même, les entreprises soutenues par FinanSol ont créé environ 20 000 emplois par an, ce qui est quand même pas mal, et construisent environ 1 000 logements sociaux par an. Ce qui est modeste, mais si vous voulez, c'est tout de même, on est content que ça existe. Et ça se développe en plus très très vite. Donc, c'est ça qui est bien.
Nous allons parler du développement de FinanSol et de la finance solidaire en général dans un instant. Le temps d'une pause, François De Witt.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitt, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Canal Académie vous propose aujourd'hui un éclairage nouveau sur la finance solidaire, sur l'argent solidaire, avec comme invité François De Witt, qui est président de FinanSol. François De Witt, nous avons dit il y a quelques instants que la finance solidaire, c'était une sorte de compromis entre une épargne et un don. Vous nous avez expliqué que l'épargnant devenait en quelque sorte investisseur. Alors, qui gagne quoi et qui perd quoi ?
Si vous voulez, quand l'épargnant devient investisseur, c'est qu'il met de l'argent dans une structure qui va directement financer des entrepreneurs sociaux. Par exemple, qui va directement financer des entreprises d'insertion, c'est-à-dire qui emploie des handicapés physiques, ou par exemple qui va financer directement des gens qui font de l'agriculture biologique, pour prendre un exemple très différent. Et à ce moment-là, l'investisseur se dit ça ne va pas me rapporter autant que si j'achète, Total ou EDF en bourse, comprenez ? Donc, je ne vais pas avoir une rentabilité. On va peut-être même simplement me garantir que je peux récupérer mon argent au bout de 5 ou 10 ans. Donc, c'est rentabilité zéro. Alors là, l'État intervient de manière très sympathique. Et comme il s'agit d'entrepreneurs, d'entreprises, eh bien, sur 100 euros que vous investissez, il y en a 25 qui vous sont remboursés sous forme de réduction d'impôts. Donc, ça vous coûte 75. Et au bout de 5 ans ou 10 ans, vous allez récupérer les 100. Donc, vous avez une petite rentabilité quand même, parce que si vous payez les impôts, bien entendu, si vous ne payez pas d'impôts, ce n'est pas rentable. Et vous avez une petite rentabilité. Ça, c'est la première approche. Et l'autre approche, qui est une approche plus de partage, vous faites un don. Effectivement, vous renoncez à ce qui pourrait rapporter 4 ou 5 %. Ça ne rapporte plus que 2 ou 3 parce que vous avez donné une partie de votre gain, si je puis dire, à une cause. Et là aussi, d'ailleurs, la partie que vous donnez à la cause bénéficie, elle aussi, d'une réduction d'impôt parce que c'est un don. En France, nous avons un régime très favorable lorsque l'on donne de l'argent, que ce soit sous forme d'argent qui est de rémunération d'épargne ou lorsqu'on le donne directement, lorsqu'on fait un chèque à une association, eh bien, l'État vous donne une réduction d'impôt de 66 %, ce qui est tout de même tout à fait exceptionnel, et même 75 % dans certains cas. Et donc, finalement, votre don est financé au moins aux deux tiers par l'État. Donc, vous voyez, je crois que c'est un point important, c'est que moi, je ne suis pas un fou des impôts. J'essaie d'expliquer à mes auditeurs, à mes lecteurs, tant que je peux, comment éviter de payer trop d'impôts. Mais là, je trouve que l'État est très beau joueur dans ce domaine, puisqu'il est vraiment très encourageant pour les finances solidaires.
Alors, est-ce que ce mélange des genres passe bien, puisqu'on a dit que l'action d'épargner était une action qui visait à stocker l'énergie argent, quelque part.
Oui. Alors, je vais vous dire, c'est une question importante, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui disent, au fond, quand on donne, c'est pour les autres, et quand on épargne, c'est pour soi. Donc, pourquoi mélanger les gens? Est-ce que ce n'est pas un peu fumeux? Alors, moi, je réponds à ces gens-là qu'effectivement, ça se discute. Mais pour vous donner un chiffre, c'est assez intéressant, quelques chiffres, il y a environ 35 millions de Français qui épargnent, il y a environ 6 à 7 millions de Français qui donnent, et il y a 300 000 Français qui font de l'épargne solidaire. Donc vous voyez...
Il y a encore beaucoup à faire.
Voilà, alors moi je me dis, ça n'a peut-être pas tellement de sens, mais ce que je constate, c'est qu'il y en a de plus en plus d'épargnants solidaires, et qu'il y en a comme il y en a très peu pour le moment, comme vous voyez, les chiffres sont quand même très bas, eh bien, il y a de la place pour que ça augmente. Et la question de savoir si les deux actes de donner et d'épargner sont incompatibles, eh bien, on se la posera quand on aura 1 million d'épargnants solidaires.
Oui, parce que la progression est notable.
Oui, ça, on est très content parce que ça, effectivement, le concept, justement, s'acclimate grâce en particulier à l'épargne solidaire, à l'épargne salariale solidaire, grâce aussi au livret solidaire. Et donc, disons, grosso modo, les montants progressent de 30 à 35% par an depuis 3 ans. Et en plus, j'ajouterai une chose qui est intéressante, c'est que nous avons, si vous voulez... Nous avons un comité qui labellise les outils d'épargne solidaire, on va peut-être en parler, et je peux vous dire que le nombre de labels qu'on donne, et on en a donné l'année dernière, enfin depuis un an, on en a donné 20, c'est-à-dire un tiers de ce qu'on avait en stock. On avait 60 outils d'épargne solidaire il y a un an, maintenant il y en a 80, c'est-à-dire un tiers de plus.
Et c'est nouveau ce système de label FinanSol?
C'est pas nouveau parce que c'est né avec l'association, l'idée étant que cette association faisait la promotion de tous les outils solidaires portant le label FinanSol. Mais c'est pas nous qui donnons le label, ça je précise, très important, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Donc nous soutenons, il y a un comité du label totalement indépendant de FinanSol, on participe aux réunions du comité du label qui décide souverainement, ce truc-là, on le labellise, alors celui-là, il faut qu'il nous explique un peu plus, c'est pas clair, etc. Donc eux donnent le label, et une fois qu'un produit est labellisé, il rentre sur notre site internet, finansol.org, et puis on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit connu, pour le faire connaître du grand public. Donc vraiment, notre association a une fonction très importante, à la fois de rassembler tous les financeurs solidaires, et puis en plus de faire la promotion et le lobbying, bien entendu, c'est très utile, sur ce sujet auprès aussi bien du grand public que des corps constitués.
Et pour recevoir ce label, alors quels sont les critères?
Il y a 2 critères fondamentaux pour être labellisé. Il y a un critère de transparence, c'est-à-dire qu'il faut que l'outil d'épargne qui veut se faire labelliser soit clair. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas complexe, hein, parce que clarté ne veut pas dire non-complexité. Et dans ce domaine-là, les choses sont souvent assez complexes. Donc, il faut que ce soit clair, il faut qu'il soit transparent, et il faut, deuxièmement, qu'il soit solidaire, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un mécanisme de solidarité qui soit incorporé dans cet outil d'épargne.
Alors, pour l'épargnant investisseur, c'est une sorte d'assurance, ce label,
sinon ça... Oui, c'est une bonne garantie, si on le voit bien maintenant, parce que... On a eu l'occasion ces derniers mois d'avoir des contacts avec des très grands réseaux bancaires, pour prendre que cet exemple, qui souhaitaient ardemment que leurs outils d'épargne solidaire soient labellisés, parce qu'ils savent que vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis des syndicats, c'est un gage, vous voyez ce que je veux dire, de bonne qualité. Donc on est très... Et d'ailleurs, on ne s'interdit pas du tout de délabelliser un outil qui, effectivement, nous paraîtrait ne plus correspondre à sa vocation d'origine.
Pour continuer dans les chiffres que vous nous avez indiqués tout à l'heure, dans le dernier baromètre des finances solidaires, c'est un magazine ?
Baromètre, si vous voulez, c'est une publication annuelle. C'est d'abord une série de statistiques rassemblées par l'Observatoire des finances solidaires, qui est là pour le coup, l'Observatoire est parfaitement interne à FinanSol. Et le journal La Croix nous fait la gentillesse tous les ans de publier avec nous ce baromètre qui raconte des histoires solidaires et qui donne tous les chiffres importants sur le sujet. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le montant des investissements solidaires est de l'ordre de 300 millions d'euros et l'épargne solidaire cumulée est de l'ordre de 1,7 milliard d'euros. Et il y a eu 400 millions d'euros d'épargne solidaire supplémentaire l'année dernière. Mais 400 millions d'épargne, c'est à comparer à 120 milliards d'euros d'épargne annuelle des Français. Donc vous voyez, on est encore des puces, mais ce n'est pas très grave parce qu'on est une puce qui grossit, donc c'est très bien.
Et comment cette épargne solidaire se comporte-t-elle en ces temps de crise financière? Quels sont les risques? Ce sont des questions que l'on doit beaucoup vous poser en ce moment.
Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, lorsque cette épargne est investie en bourse, bien entendu, elle subit les aléas de la bourse. Lorsqu'elle est en livret, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on investit directement dans une entreprise solidaire, il n'y a pas de changement, parce que, si vous voulez, sauf que peut-être si l'économie se dégrade, ces entreprises auront peut-être plus de difficultés qu'elles n'ont eu ces dernières années. Mais c'est surtout l'épargne solidaire qui passe par la voie boursière qui évidemment subit la baisse des marchés des actions. Mais en général, les SICAV et les fonds d'épargne salariale solidaire sont diversifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répartis, ils sont répartis entre les actions et les obligations. Les obligations, c'est beaucoup plus sûr, ça résiste beaucoup plus aux coups de tabac qu'on a actuellement que les actions. Donc, on a regardé les performances de nos fonds solidaires, de nos SICAV solidaires, elles sont plutôt un peu meilleure que celle du marché financier en général. Donc, les épargnants solidaires ont été un peu protégés, si je puis dire.
Alors, venons-en maintenant aux missions de Finansol. Quelles sont ces missions?
Donc, si vous voulez, effectivement, ces missions, d'abord, ça a été un collectif de gens qui voulaient travailler ensemble et qui voulaient exprimer leur particularisme et leurs ambitions, qui étaient fondamentalement à l'origine donc de créer une espèce d'alternative entre les deux voies qui s'opposaient, puisqu'on était encore, le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Et ça a évolué aujourd'hui, en fait, vers le rassemblement de tous les gens qui prennent des initiatives. Aujourd'hui, vous avez par exemple des gens qui font du financement des entrepreneurs des cités qui sont venus nous rejoindre. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. De même que nous avons labellisé un livret qui est diffusé par une quinzaine de banques populaires. Ce livret qui s'appelle Code des Verts est un livret qui est un peu moins bien rémunéré qu'un livret d'épargne normale, mais en contrepartie, la banque accorde des prêts à ceux qui achètent des pompes à chaleur ou qui font du photovoltaïque, c'est-à-dire des outils économiseurs d'énergie. Donc, là, c'est un concept assez original où, en fait, la renonciation à la rémunération, disons, a une contrepartie qui est vous ou quelqu'un d'autre peut emprunter un taux de faveur. Et je pense que dans les circonstances actuelles, eh bien, c'est extrêmement important que ce genre d'outils existe. Et j'espère que les banques populaires vont faire une large diffusion parce que, comme vous le savez, il devient un peu difficile d'emprunter. Et en plus, les taux des crédits augmentent. Et donc, si vous voulez, on rassemble tous ces gens-là et ensuite, on soutient d'où des initiatives que nous prenons, le baromètre des finances solidaires, d'où la création d'un site internet qui veut vraiment expliquer aux gens comment se promener dans cet univers assez complexe, assez touffu, comment savoir, par exemple, si vous avez envie d'aider le logement social, eh bien vous pouvez cliquer sur notre site, trouver les différents organismes que vous pouvez alimenter, si vous voulez, en capitaux, que vous pouvez donc accompagner grâce, disons, non pas à notre intermédiaire, mais à notre promotion.
Oui, c'est un site clair et bien dans lequel on navigue de façon très facile, très aisée.
Voilà, et on voudrait aller encore plus loin parce que si vous voulez, moi, je sais l'expérience en tant que journaliste. C'est quoi le journalisme? C'est raconter des histoires. Les gens veulent toujours qu'on raconte des histoires, ce qui est normal d'ailleurs. Moi aussi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et nous, il faut qu'on raconte des histoires d'entrepreneurs sociaux, si vous voulez. Donc, il faut vraiment qu'on ait sur notre site, il faut qu'on le fasse vivre avec les histoires des destinataires finaux de ce que nous faisons. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Les gens veulent savoir où va mon argent.
C'est normal.
Et c'est tout à fait normal.
Légitime.
Et je pense que c'est même si ça bien, ça peut leur donner encore plus envie d'y aller.
Finansol.org.
Voilà.
Alors, si je dis emploi, social, logement, environnement, solidarité internationale, ce sont les grands chapitres.
Ce sont les grands chapitres, tout à fait. Emploi social, effectivement, logement, nord-sud, et environnement. Tout à fait.
Alors, c'est donc, on a bien compris que Finansol est une association qui permet de fédérer toutes sortes d'énergie pour financer des initiatives économiques qui contribuent à la lutte contre l'exclusion, à la cohésion sociale, au développement durable. Mais alors concrètement, en parlant comme ça de terrain, quel est le travail de Finansol? Quel est votre travail, François De Witte? Quelles sont les missions concrètes que vous vous donnez? Comment les projets sont sélectionnés? Comment est-ce que vous établissez ces ponts entre les projets et les financeurs?
Parce que ça, c'est pas nous, ça. Nous, ce sont les financeurs qui, eux, vont chercher des entrepreneurs. Alors, et c'est pas si facile, d'ailleurs. Ce sont les gens qui recueillent les capitaux, qui ensuite, dont la vocation est d'investir ces capitaux dans le capital de petits entrepreneurs ou de le donner à des associations qui vont œuvrer dans un sens solidaire.
Ce sont les financeurs qui, distribuent.
Voilà.
Ensuite. Et vous, Finansol?
Et nous, il faut qu'on fasse connaître les financeurs et il faut qu'on fasse connaître la diversité de ces financeurs, si vous voulez. Donc, nos adhérents, ils mettent de l'argent chez les financeurs et non pas en bout de chaîne, vous voyez, si vous voulez. C'est ça.
C'est un grand travail de communication sur lequel nous revenons dans un instant avec vous, François De Witte. Le temps d'une pause musicale.
Canal Académie.
Canal Académie a le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un sujet passionnant, celui de l'argent solidaire, de la finance solidaire, en compagnie d'un expert en économie, en compagnie de François De Witte. François De Witte, parlez-nous de ce rapport entre investisseurs, entre ONG et en bout de fil, en bout de ligne, avec celui qui va pouvoir financer son projet, qui va pouvoir se remettre au travail, qui va pouvoir trouver un logement, qui va... Parlez-nous de cette action.
Prenons un exemple. J'ouvre un livret d'épargne pour les autres, par exemple, au Crédit Mutuel. Eh bien, ce livret, je vais toucher 2% de rémunération au lieu de 4%. Il y a 2% qui vont être versés à une ONG de mon choix, dans laquelle on va retrouver la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire. Il y en a une quinzaine, si vous voulez, d'ONG qui vont bénéficier d'une petite partie donc, de l'argent qui est sur mon livret. Admettons, donc, je suis maintenant, pour un autre exemple, je suis salarié d'une grande entreprise, peut-être L'Oréal, peut-être Carrefour, peut-être AXA, qui sont concernés par ce sujet. Je vais, pour préparer ma retraite, je vais mettre un peu d'argent, l'argent de la participation, l'argent de l'intéressement que je reçois de l'entreprise, je vais en placer une partie dans un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. Ce fonds commun de placement, il va fonctionner comme un fonds commun de placement classique, c'est-à-dire il va être réparti de manière équilibrée entre les actions et les obligations, comme ça il perd pas trop d'argent même quand la bourse est très mauvaise, il en perd 10% quand la bourse en perd 20%, et il va en mettre une petite partie, 5%, dans un fonds solidaire. Ce fonds solidaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter de l'argent, par exemple, à France Active. France Active est une entreprise qui va, elle, apporter des garanties et des fonds propres à des entrepreneurs qui, par exemple, ont des salariés qui sont en insertion, c'est-à-dire qui sont chômeurs de longue durée ou qui sont handicapés. Donc, on résout, grâce à ce problème, on résout un des problèmes majeurs de notre société qui est comment faire pour les chômeurs de longue durée, si vous voulez. Les chômeurs de longue durée, ça ne s'embauche pas comme ça.
Mais des problèmes dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud.
Alors, c'est tout à fait. Là, vous avez un exemple de ce qu'on peut faire dans l'hémisphère nord. Mais on peut aussi, par exemple, cette fameuse poche solidaire du fonds commun de placement d'entreprise. C'est vachement compliqué, hein, faut pas se leurrer. Elle peut être investie, par exemple, dans la CIDI. La CIDI est une émanation du Comité catholique contre la faim et pour le développement qui fait du microcrédit en Afrique, notamment. Donc, on peut très bien, on participe grâce, avec son statut de salarié, en préparant sa retraite, on est en train de faire un tout petit peu un geste solidaire vis-à-vis des gens en difficulté ou des gens, au contraire, un peu entreprenants dans les pays du Sud. Et je pense que, si vous voulez, on voit bien que c'est une voie très intéressante pour créer, pour, disons, résoudre des problèmes de société que l'État ne peut pas résoudre. Il paraît que les caisses sont vides dans l'État français. Ben, il faut que la société civile fasse quelque chose à la place de l'État, quelque chose évidemment qui corresponde au tempérament, au souhait de vous et de moi. Si rien de là-dedans nous intéresse, ben c'est pas grave, on a notre livret A et on financera le logement social, parce que les gens des caisses d'épargne font le raisonnement quand c'est le livret A, c'est le premier livret solidaire puisqu'il finance le logement social. Bon, c'est un peu spécieux comme argument, mais c'est pas totalement faux, parce que le livret A, son produit passe par la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts, d'ailleurs, pour nous, FinanSol, est un puissant soutien puisqu'elle nous accompagne beaucoup dans nos efforts, disons, de persuasion des Français que c'est important de placer son argent de cette manière-là.
Est-ce que vous pourriez nous donner comme ça quelques exemples, soit de financiers, soit d'ONG ?
Les ONG, on en a pas mal parlé, si vous voulez. Les entreprises, par exemple, il y a une petite entreprise qui s'appelle La Petite Reine, qui fait du dispatching de colis et de courriers, qui distribue du courrier en ville. Elle est présente dans 4 grandes villes de France. Et alors, c'est des bicyclettes, enfin, des espèces de triporteurs électriques, donc pas polluants et tout ça. Et La Petite Reine a la vocation à faire 20, 30, 40 villes de France. Et elle vit fondamentalement d'apport en fonds propres d'épargnants solidaires. Donc, elle se développe de cette manière et je trouve que c'est une initiative sympathique. Vous avez une autre entreprise qui s'appelle Ethicable, qui pratique donc le commerce équitable. Et Dieu sait que c'est difficile de faire en sorte que l'on respecte les intérêts de toutes les parties prenantes, parce qu'il y a beaucoup d'équitable qui ne l'est pas tout à fait ou qui ne l'est moins qu'il ne pourrait l'être aujourd'hui. Disons, un cahier de charges qui est extrêmement précis et qui est, c'est tout de même des gens tout à fait intéressants et qui sont fondamentalement soutenus par des gens qui sont dans la mouvance solidaire, vous voyez. Alors, je prends un autre exemple qui est très intéressant. Vous avez parmi les adhérents de FinanSol une structure très originale qui s'appelle la Nouvelle Économie Fraternelle, la NEF, et qui a été créée par des gens qui sont très inspirés par la pensée de Rudolf Steiner. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un très grand bonhomme qui a beaucoup apporté à l'humanité et qui a une vision, disons, très humanitariste, d'ailleurs, des choses. Et eux, ils sont solidaires, mais alors je dirais doublement solidaires, parce que quand vous rentrez à la NEF, vous devenez adhérent, associé, etc. Et vous êtes vraiment, vous participez, parce qu'ils ne font aucun investissement sans consulter toutes les parties, sans que tout le monde soit tout à fait d'accord. Et ils sont vraiment, d'ailleurs, ils vont sans doute se rapprocher d'une banque italienne qui s'appelle la Banca Etica, et ils veulent créer un réseau de banques éthiques, mais avec, je dirais, des exigences et des règles extrêmement strictes tout à travers l'Europe. Et je trouve ça très inspirant, si vous voulez, d'avoir des adhérents de cette nature-là, c'est bon pour nous.
Il y a toutes sortes aussi d'organismes qui pratiquent le microcrédit ?
Absolument. On a par exemple l'ADI, qui est adhérent chez nous, et la CIDI, donc, qui est la filiale du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui sont les adhérents d'origine. Donc, effectivement, puis on sera ravis d'accueillir de nouveaux organismes de microcrédit. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi bien, mais on a des gens comme la Massif, qui sont de l'économie sociale, comme la CARAC. La CARAC, c'est une caisse de retraite des anciens combattants, et qui sont adhérents chez nous. Et donc, on voit bien qu'il y a tout un désir, une mouvance, si vous voulez, un peu solidaire, qui se crée avec de gens qui viennent d'horizons très très différents, mais qui considèrent que c'est important justement que la société civile prenne une place importante dans ce type d'activité en France.
Mais vous l'avez dit tout à l'heure, François De Witt, c'est tout de même assez complexe. Et pour essayer de clarifier les choses, d'avoir une représentation concrète, incarnée, etc., il y a ces semaines de l'épargne solidaire qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Donnez-nous les dates et expliquez-nous ce qui va se passer et où cela va se passer.
Alors, c'est exactement la semaine de l'épargne solidaire est une idée qui est venue de ce qu'on faisait depuis plusieurs années. On faisait une semaine dans une région et une semaine dans la région Île-de-France tous les ans. pour, disons, faire passer le message de l'épargne solidaire. Là, on a vu grand, on a décidé de faire une semaine nationale. Alors, il y a 12 régions sur les 22 qui ont décidé de marcher avec nous, ce qui est très bien. 12 alors qu'on en avait 2 jusqu'à présent. Et donc, on espère que ça, on va faire, on aura plus d'impact qu'on avait jusqu'à présent. Et on a pris un slogan, semaine d'épargne solidaire, parlez-en à votre banquier. C'est-à-dire l'idée de dire, bon, on va un peu mouiller les banquiers. Alors, sachant très bien qu'il y a un certain nombre de banques qui sont déjà, disons, dont j'ai donné les noms, par exemple Crédit Mutuel, les banques populaires, Crédit Coopératif, qui sont déjà très engagées dans ce domaine. Les caisses d'épargne le sont aussi, mais par un biais un peu différent. Mais d'autres banques ne sont pas encore très concernées par le sujet. Elles commencent à le devenir, notamment via l'épargne salariale. Mais on veut un petit peu les sensibiliser, puis que nos épargnants solidaires, qui vont avoir droit à des bracelets pour montrer un petit peu qu'ils sont militants, si je puis dire, mais tout un chacun peut en avoir. On va distribuer quand même des objets comme ça de promotion. Et on va surtout faire de l'animation, c'est-à-dire il y a des régions où il y aura des, par exemple des présentations de photos d'épargnants solidaires, il y en a d'autres où il y aura des colloques, il y en a qui vont faire des visites, des portes ouvertes d'entrepreneurs solidaires. C'est un peu à la carte, si vous voulez, dans chacune des régions concernées, et notamment en Ile-de-France. En Ile-de-France, on va faire un grand colloque un peu chicos au Palais Brongniart pour parler de tout ça. Et on va aussi présenter le baromètre professionnel des finances solidaires. Bref, il y a tout un ensemble d'activités, d'animations. On espère grâce à ça qu'on aura de l'affichage aussi. C'est de la sensibilisation. Si vous voulez. C'est complètement notre rôle d'association que d'essayer de faire découvrir aux Français, en dépit de sa complexité, disons, tous ces petits ruisseaux d'épargne solidaire dont on espère faire une grande rivière, évidemment.
C'est ça l'approche d'un monde nouveau ?
Oui, parce que c'est un monde nouveau. Je crois que ce genre de... Il y avait autrefois, il y avait les associations à but non lucratif, les entreprises à but lucratif. Et je pense qu'il y a tout de même une espèce de... Entre les deux, il y a la place pour quelque chose qui n'est ni tout à fait une association... ni tout à fait une entreprise classique mue par le profit, mais comme quoi la démarche alternative dont on parlait au début de la conversation n'est pas sotte, mais peut-être pas une alternative au niveau sociétal, simplement trouver des structures où on, à la fois on a besoin de rentabilité pour vivre, mais on a aussi besoin de légitimité, on a besoin d'une cause aussi pour vivre et pour se justifier.
Un peu à l'image de la place que l'on gardait pour celui qui n'a pas autour de sa propre de sa table.
Voilà, tout à fait.
Celui qui n'a pas et qu'on peut soutenir, que l'on peut aider.
Oui. Et c'est d'autant plus vrai que, si vous voulez, les Français sont riches. Alors, il ne faut pas me faire de pipeau comme quoi on n'a pas de quoi, etc. C'est vrai, nous avons nos pauvres. Nous avons une définition de la pauvreté qui est d'ailleurs une définition un tout petit peu large, ce qui fait qu'il y en a plus. Ça, c'est pour impressionner. Mais je pense que nous avons encore beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens d'aller tendre la main aux autres.
François De Witt, optimiste, très pessimiste par rapport à cette crise financière et derrière laquelle se cache, d'après vous, une crise économique d'envergure ou pas ?
Je crains qu'on soit parti pour du ralentissement économique prolongé pendant peut-être un an, disons. Je crains que ce soit ça parce que c'est d'une complexité comme je n'en ai jamais vu. Cette crise financière est d'une complexité inconnu de moi depuis que je suis la bourse, les finances et les entreprises. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il arrive tout le temps de nouveaux accidents parce qu'on n'avait pas prévu ceci ou cela et même les plus grands esprits n'avaient pas vu exactement ce qu'il pouvait se passer. Donc là, on est dans une situation difficile, mais c'est toujours pareil quand on est dans une situation difficile. D'abord, on s'en sort un jour. Donc, si vous voulez, un jour, les bourses vont repartir faire 30% de hausse en un an ou 40%. C'est donc que les gens qui ont les actions ne soient pas totalement découragés, ça rebondit toujours. Mais simplement, il faut qu'ils puissent attendre un ou deux ans avant le rebond.
Oui, mais comment...
Et peut-être un peu moins, d'ailleurs.
Mais comment développer, continuer de développer un concept de solidarité ?
Mais alors, je crois qu'effectivement, dans ces conditions-là, il ne faut pas croire que la solidarité serait menacée si les gens se sentent appauvris. Alors, je crains qu'effectivement un certain nombre de gens se sentent appauvris aujourd'hui, même s'ils ne le sont pas. Parce qu'il ne faut pas non plus, il faut un peu relativiser le phénomène. si vous voulez, si vous avez beaucoup et que vous en avez un peu moins, vous n'êtes pas vraiment totalement appauvri. Si vous avez peu et qu'on vous prend le peu, là, vous êtes appauvri. Mais on ne vous prend pas le peu. Les salaires, quand même, augmentent, si vous voulez, même si beaucoup d'entre eux sont plafonnés. Les impôts n'augmentent pas spécialement, je pense, dans notre pays. Donc, et puis, encore une fois, je pense que la finance solidaire, ça s'adresse à beaucoup de gens, à des gens qui sont des militants, peut-être pas très riches, et aussi à des gens qui sont des sympathisants, qui ont plus de moyens. Alors peut-être que les militants, s'ils gardent leur esprit militant, normalement, ça doit continuer. Et si les sympathisants ont peu de sous, ben, je veux dire, ça doit continuer aussi. Et je pense au contraire que dans des circonstances difficiles comme ça, il faut un peu serrer les coudes à l'intérieur d'une population et même sur le plan mondial. Et ce qui va se passer, c'est que on sort toujours des crises grandies, si vous voulez. Donc je pense que la solidarité internationale, on va bien le voir sur le plan financier, regardez sur le plan européen, les différents pays n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir comment traiter leur secteur bancaire respectif. Eh bien, ça, c'est effectivement regrettable, mais je pense que pour sortir de la crise globalement, il va falloir qu'il y ait plus de règles partagées par les différentes banques des différents pays ou les différentes institutions de régulation. Donc, on en sortira, je pense, grandi.
Oui, donc selon vous, François De Witt, quelle que soit la situation, la finance solidaire, c'est avant tout un état d'esprit.
Absolument.
Merci François De Witt. Et avant de nous quitter, je voudrais communiquer aux auditeurs de Canal Academy les dates de la prochaine semaine de l'épargne solidaire. Cet événement se tiendra à travers toute la France du 18 au 25 octobre prochain. Au revoir, merci de votre attention.